Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans l'Épître aux Romains, nous aurons trois lectures qui seront les bases de la prédication, qui se basera particulièrement sur deux versets dans 2 Corinthiens. Mais premièrement, un verset dans Romains 14, le verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Deuxième texte dans Galates 2, les versets 19 et 20. En effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi, afin que je vive pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et nous allons maintenant dans 2 Corinthiens 5. Nous lirons les versets 14 à 6, 1, mais la prédication se concentrera sur les versets 14 et 15. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la vie, nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas bouger. D'accord, hein? Si on n'a pas la vie, on ne peut pas bouger. On ne peut pas entendre, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas répondre. Eh bien, face à la parole de Dieu, si nous n'avons pas le Saint-Esprit qui nous guide, nous éclaire et nous convainc, nous sommes comme si nous n'avions pas la vie. Mais je crois au Saint-Esprit qu'il va agir aujourd'hui et nous comptons sur son œuvre et sa grâce. Et comme chaque année, nous voici à Pâques. C'est bien, chaque année, il y a Pâques qui revient pour nous rappeler l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ. Et il est bon de réfléchir à ce que cela signifie pour nous. Pour le chrétien, la Pâque, c'est la résurrection. Le retour à la vie de Jésus-Christ, qui avait été mis à mort, crucifié, et dont le corps sans vie avait été mis dans la tombe. C'est-à-dire une résurrection que Jésus lui-même avait annoncée. Il a d'ailleurs parlé en Matthieu 12, 40 d'un homme qui avait été avalé par un poisson. Souvenez les enfants d'un homme qui a été avalé d'un poisson dans la Bible. Il s'appelle comment déjà? Jonas! Oui, c'est ça, exactement, Jonas. Eh bien, Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson et ensuite il a été rejeté, il est revenu à la vie, comme Jésus a été 3 jours dans le ventre de la terre, si vous voulez, dans la tombe, avant d'en ressortir. Donc Jésus lui-même l'a annoncé avant que ça se passe. Et j'espère que c'est clair pour tous ici que la Pâque, c'est un rappel de la résurrection de Jésus. Nous allons beaucoup utiliser ce mot « résurrection ». J'aimerais juste être sûr que tout le monde, que les enfants aussi, vous saviez c'est quoi la résurrection. Si votre papa ou votre maman vous demandait « c'est quoi la résurrection ?» Qu'est-ce que vous diriez? eh bien, vous pourriez dire, je vous aide un peu, hein, vous pourriez dire, c'est quand quelqu'un est mort et qu'il revient vivant. C'est ça, en fait. C'est le passage du mort à vivant. Ça, c'est la résurrection. Quand on parle de résurrection, c'est cela. Alors, en 2012, alors ça fait un petit moment, hein, en 2012, on avait déjà fait une enquête ensemble pour, en fait, vérifier si c'était vrai que Jésus est ressuscité. Donc, je ne vais pas revenir sur tous ces éléments. Vous pouvez les réécouter si vous voulez. Et nous avons vu aussi l'année passée quelques aspects de la catastrophe si Jésus n'était pas ressuscité. Et c'est vrai que c'est important de connaître ces informations. Mais qu'est-ce que cela change pour toi que Jésus est ressuscité? Quelles sont les conséquences pratiques de la résurrection dans tes relations? J'ai demandé à quelqu'un de l'église la semaine passée ce que signifiait la résurrection dans les relations. Et voici ce que cette personne m'a dit. Je la cite. La résurrection dans les relations, c'est l'espoir, la joie, la vie, l'amour. C'est tout. Sans résurrection, aucun espoir. Eh bien, ça nous met sur la piste pour la prédication de ce jour, parce que ce matin, nous allons prendre quelques instants pour réfléchir aux conséquences de la résurrection sur nos relations avec les autres. Quelles sont les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce que la résurrection change dans la relation entre deux personnes, entre un enfant et ses parents, entre un mari et son épouse, un frère et une sœur, un collègue avec des copains, avec les amis, etc. Qu'est-ce que la résurrection change? Eh bien, nous allons réfléchir en partant du texte biblique de 2 Corinthiens 5, 14 à 15, pour nous limiter, parce qu'on pourrait parler de tellement de choses, mais on va se limiter à ces éléments que nous retrouverons ici dans ce texte. Et je vais le relire, 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous et tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On va souligner quelques éléments dans ce passage. Le premier, c'est l'amour du Christ nous étreint. Ce qui signifie que l'amour du Christ nous habite. Et si l'amour du Christ nous habite, c'est parce qu'il est ressuscité. Ça sera notre premier point, on va le développer. Deuxièmement, il est écrit, nous avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, il est mort pour tous. Ça veut dire quoi cela? En fait, nous comprenons que Jésus a accompli le salut pour nous et d'autres. La résurrection atteste ce salut. Ça sera notre deuxième point et nous verrons le lien avec les relations avec les autres. Et troisièmement, il est écrit, « Afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Jésus est ressuscité afin que nous vivions pour lui et non pour nous-mêmes. Et nous verrons ce que cela signifie dans les relations. Ça sera notre troisième point. Commençons donc par la première conséquence de la résurrection. L'amour de Christ nous habite parce qu'il est ressuscité. En fait, nous ne pouvons pas être remplis de l'amour de quelqu'un qui est mort. Nous ne pouvons pas être remplis de l'amour de quelqu'un qui est mort. Avez-vous déjà vu les abeilles? J'aime bien les abeilles. C'est fabuleux ce mot d'abeille. Eh bien, elles vont chercher le nectar et remplissent ensuite les alvéoles de leur rayon avec le miel. Imaginez là. Hein? Maintenant, est-ce qu'une abeille morte pourrait remplir une seule alvéole de miel? Ben non. Elle doit être vivante pour le faire, vous êtes d'accord? Si elle est morte, elle ne peut pas le faire. Eh bien, Jésus est vivant. Et c'est lui seul qui peut remplir les alvéoles des rayons de notre cœur avec son amour succulent. C'est parce qu'il est vivant, en fait. Et si dans tes relations, tu as de la peine à aimer ton papa, ta maman, ton fils, ta fille, ton frère, ta sœur, ton ami, ton voisin, ton collègue, ton patron, ton prof, enfin, ou toute autre personne avec qui tu es en relation, c'est de l'amour de Jésus ressuscité qu'il faut te nourrir, en fait. C'est là que tu vas trouver l'amour pour aimer ceux qui sont autour de toi. Et pour mieux aimer l'autre, par exemple, va voir comment Jésus t'a aimé, te remplir de cet amour qu'il te donne. Il l'a fait en donnant sa vie, en acceptant de souffrir pour toi, en quittant la richesse pour vivre dans la pauvreté, afin que nous puissions être enrichis d'une richesse éternelle, durable. Et il continue en faisant l'avocat auprès de Dieu pour nous. En fait, il n'a pas besoin de faire tout cela. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait par amour. Et nous pouvons le saisir par la foi. Pour mieux aimer l'autre, il nous faut prier que Dieu nous remplisse de l'amour de Jésus qui est ressuscité, qui est vivant. C'est de cet amour-là dont nous avons besoin pour réellement aimer les autres. Nous pourrions dire, fais le pas d'aimer l'autre. Vas-y, fais le pas d'aimer l'autre en croyant que Dieu te donnera cet amour. Pourquoi ? Parce qu'on fait un pas de foi. Parce que l'amour du ressuscité habite en ceux qui croient en lui. C'est le texte qui le dit. L'amour de Christ habite en ceux qui croient en lui. Donc, il ne faut pas attendre. Seigneur, donne-moi de l'amour. Il habite. Donc, faites le pas d'aimer l'autre en croyant que Dieu te donnera cet amour. Parce que l'amour du ressuscité habite en ceux qui croient en lui. Qu'est-ce que la résurrection change dans mes relations? Eh bien, ce premier élément nous montre que l'amour de Christ nous habite parce qu'il est ressuscité. Et cet amour se manifeste dans nos relations. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne pourrions pas avoir l'amour de Christ pour nous. Donc les relations avec les autres, ce serait totalement différent. Après l'amour, parlons du salut. Du fait d'être pardonné de ses péchés, délivré du juste jugement qui pèse sur le pécheur que nous sommes par nature. Donc le deuxième point, la résurrection atteste le salut accompli pour nous et d'autres. Et là je donne de nouveau une phrase, comme avant j'ai dit qu'on ne pouvait pas aimer si Christ n'était pas ressuscité, bien ici, nous ne pouvons pas être sauvés par quelqu'un qui est mort. Nous ne pouvons pas être sauvés par quelqu'un qui est mort. Alors que vous êtes en train de couler, si une personne est morte à côté de la rivière où il y a une bouée, vous coulez, il ne peut pas vous la lancer. Il doit être vivant pour vous lancer cette bouée. Prenons une autre illustration. Si vous vous trouvez dans une situation dangereuse, vous devez passer par un chemin où il pleut des flèches empoisonnées. Il n'y a pas d'autre chemin, vous devez passer par là. Il n'est possible de passer par ce chemin vivant qu'avec l'aide d'un homme qui porte un grand bouclier et qui vous protège des flèches. Ça va, vous êtes avec moi là? Un chemin, les flèches empoisonnées, il faut que quelqu'un... Ok, d'accord. Il y a près du chemin 10 hommes et un bouclier que eux seuls peuvent porter. Mais sur les 10 hommes présents, 9 sont morts et un est vivant. Qui pourra vous protéger, vous sauver d'une attaque mortelle? Ben celui qui est vivant uniquement, bien entendu. Celui qui est vivant uniquement. Et qui pourra vous protéger, vous sauver d'une attaque mortelle? Celui qui est vivant uniquement, bien entendu. Eh bien, Jésus est vivant. Et il peut te protéger des flèches meurtrières. Or, cela signifie deux choses pour les relations. La première, c'est que personne autour de toi ne peut te protéger et te sauver comme Jésus. Personne. Il ne faut pas chercher son salut vers son papa, vers sa maman, ses enfants, ses frères, sa sœur, enfin, etc. En fait, spirituellement, ils font partie des 9 personnes mortes dans l'illustration. En fait, ne faisons pas porter la responsabilité, la charge, le poids de notre salut et ainsi notre raison de vivre à un autre qu'au ressuscité. Hein, ne faisons pas porter cette responsabilité, cette charge, ce poids de notre salut à quelqu'un d'autre qu'au ressuscité. Donc si tu es triste et si tu cherches un sens à ta vie, va vers Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité, et demande-lui de te consoler, de te guider, et réjouis-toi qu'il te donne des parents, des amis pour te soutenir, t'encourager, te motiver à chercher tes ressources dans le ressuscité qui est vivant. En plus, Jésus est le seul qui ne va pas mourir. Il ne va jamais mourir à nos côtés, parce qu'il est ressuscité. Lui seul est toujours fidèle et il tient ses promesses. Et il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si dans une relation, vous placez tous vos espoirs dans une personne qui est à côté de vous, un jour, elle va disparaître. Vous serez dans le désespoir. Mais si vous placez votre espoir en Jésus-Christ, il sera toujours là. Et vous n'allez pas faire porter dans vos relations à quelqu'un d'autre cette charge d'être le sens de votre vie. Parce que quand on fait porter la charge du sens de notre vie à quelqu'un d'autre, la relation devient souvent difficile. Vous voyez l'impact de la résurrection de Christ dans nos relations? Comme il est ressuscité, comme il est vivant, comme il est notre salut, nous n'avons pas besoin de faire porter ça à qui que ce soit d'autre. Nous pouvons avoir des relations beaucoup plus paisibles, sans avoir des attentes qui ne sont irréalistes, puisque ces attentes, nous les plaçons en Christ. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si le ressuscité peut me sauver, il peut aussi sauver ceux qui sont autour de moi. Mon désir dans mes relations sera que l'autre bénéficie aussi de l'action du salut du ressuscité. Si moi-même je ne cherche pas un sauveur autour de moi dans mes relations, je ne vais pas moi-même aussi être un sauveur pour les autres. C'est dur d'être un sauveur pour les autres, vous savez. Ça peut être sympa quand on fait quelque chose de bien que ça aide l'autre, mais quand on doit le porter toute sa vie et répondre à tous ses besoins, on n'y arrive pas. Et les relations deviennent difficiles parce qu'on veut, nous, être le sauveur. Non ! Jésus-Christ est ressuscité, il est ce sauveur. Nous pouvons le conduire cette personne avec qui on a une relation vers Christ. Et pour illustrer cela, ou bien pour appliquer cela pour les enfants, par exemple, ensuite on parlera des parents, mais lorsque ton papa ou ta maman font quelque chose d'injuste, c'est déjà arrivé ça, que votre papa ou votre maman fait quelque chose d'injuste, ben, ils sont pécheurs comme moi, donc je pense que ça peut leur arriver. Hein. Et au lieu de rechercher à rétablir la justice vous-même, les enfants, expliquez simplement ce qui s'est passé et faites confiance à Jésus qui peut les aider à comprendre. C'est lui le justicier. C'est pas vous qui devez être le justicier. Et pour les parents, si tu es parent et que tu es responsable d'exercer la justice, alors faut pas éviter la justice, mais le faire dans la grâce du salut du ressuscité en comptant sur son œuvre pour le changement du cœur. Voyez ? Donc nous ne devons pas être le sauveur de l'autre. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, c'est lui qui le fait, c'est son travail. Ne le faisons pas, ne cherchons pas à le faire pour lui, sinon nos relations seront très compliquées. Qu'est-ce que la résurrection change dans nos relations? Eh bien, nous plaçons tous nos espoirs, nos attentes d'être comblés, d'être sauvés sur le seul ressuscité qui ne mourra jamais. Et pas sur les autres. Cela évitera beaucoup de pression et de frustration. Et deuxièmement, l'inverse, hein, nous désirons, nous cherchons, nous présentons, nous nous réjouissons que le ressuscité prenne soin de celui ou de celle avec qui nous sommes en relation. Voilà, qu'est-ce que ça change que Jésus est ressuscité? Ben, ça change premièrement qu'il y a son amour qui est en nous pour les autres. S'il était mort, il n'y en aurait pas. C'est comme si le robinet était fermé quelque part. Hein? Non, il est là. Et deuxièmement, bien cela change que je ne cherche pas à avoir un sauveur autour de moi et mettre une pression dans les relations, ou moi-même être un sauveur pour les autres. Troisième élément, Jésus est ressuscité pour que nous vivions pour lui. Hein, dernière partie là. Donc, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et de nouveau, une affirmation comme les deux autres fois, nous ne pouvons pas vivre pour quelqu'un qui est mort. Nous ne pouvons pas vivre pour quelqu'un qui est mort. Et quelqu'un qui est mort ne peut pas vivre en nous. Nous ne pouvons pas vivre pour quelqu'un qui est mort. Et quelqu'un qui est mort ne peut pas vivre en nous. Est-ce qu'un mort peut conduire une voiture? Ben non. Ah ben c'est bien, ça sortait du cœur ça. Bien sûr que non. Est-ce qu'un mort peut piloter un avion? Mais non. Paul dit dans Galates, de 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un mort pourrait-il vivre en nous? Mais non. Mais Jésus est vivant et il habite en nous par son esprit. Cela signifie que dans mes relations avec mon papa, avec mes frères et sœurs, avec mes amis, je vais agir, parler, avoir une attitude qui est celle de Jésus en fait. Parce que Jésus est ressuscité et vivant, Je ne cherche plus mes intérêts, mais ceux de Jésus-Christ. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour lui, aussi dans mes relations avec les autres. Ah, je ne cherche plus mes intérêts, mais ceux de Jésus-Christ. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour lui aussi dans mes relations. Or, lorsque mon papa me demande de faire la vaisselle, par exemple, je sais que si je le fais, cela montre la bonté de Jésus qui vit en moi. C'est ça, en fait. Et si je ne le fais pas, eh bien, je fais ce que je veux et je cherche mes propres intérêts. J'aimerais vous entraîner dans une réflexion. Si Jésus n'était pas ressuscité, s'il ne vivait pas en nous, nous aurions tendance à vivre égoïstement, en fait, exigeant des autres le confort physique et relationnel. Mais Jésus est ressuscité. Nous vivons pour lui. Nous cherchons l'altruisme. L'altruisme, c'est-à-dire que nous cherchons aussi le confort des autres, nous cherchons leurs intérêts, nous n'hésitons pas à chercher et à régler les conflits. Hein, nous voulons que les autres soient bien avec nous, pas seulement que nous, on soit bien avec eux. C'est ça l'œuvre de Christ ressuscité, parce que c'est ce que Jésus-Christ veut. Ou une deuxième chose, si Jésus n'est pas ressuscité, s'il ne vivait pas en nous, nous aurions tendance à vivre paresseusement. Donc de demander aux autres de nous entretenir au lieu de travailler et dans les relations dire que c'est l'autre qui doit faire le premier pas. C'est ça être paresseux. Le paresseux veut que tout lui soit accordé facilement. Mais Jésus est ressuscité. Nous vivons pour lui et nous ne ménageons pas nos efforts dans nos relations pour y travailler, pour les maintenir, pour les retrouver, pour les renouveler, tout en nous appuyant totalement sur Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, s'il ne vivait pas en nous, nous aurions tendance à vivre dans la rébellion et n'accepter aucune autorité au-dessus de nous, surtout lorsque nous n'obtenons pas ce que nous aimerions. Mais Jésus est ressuscité et nous vivons pour lui. Et nous cherchons à nous soumettre humblement aux autorités que le ressuscité a mis en place. Les enfants, si les parents vous demandent de rentrer à 4 heures, alors que vous aimeriez bien rentrer à 5 heures, de chez votre copain, de chez votre copine, rappelez-vous que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, et qu'il désire que vous restiez polis avec vos parents. Parce que vous voulez lui ressembler, que vous ne fassiez pas les carpes qui restent muettes ou la basse-cour de poule affamée qui ne cesse de caqueter, mais que vous leur répondiez simplement avec respect. Nous pourrions encore parler des dégâts relationnels, de l'orgueil et tant d'autres péchés que nous fuyons et dont nous vivons l'inverse lorsque nous vivons pour Jésus parce qu'il est ressuscité. Paul dit dans Romains 4, 25 que Jésus est ressuscité pour notre justification. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché, déclarés justes devant Dieu. Et c'est notre grande motivation à fuir le péché et à vivre à la ressemblance de notre Rédempteur ressuscité. Il a tout accompli, il m'a pardonné, il m'a purifié. Donc en retour, je vais vivre par amour selon ce que j'ai envie. Selon ce que lui a envie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous mettra toujours dans une attitude qui est bonne pour le glorifier et qui est bonne pour nous également dans un long terme. Qu'est-ce que la résurrection change dans nos relations? Eh bien, nous ne vivons plus avec les autres en étant centrés sur nous-mêmes, mais en étant centrés sur Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant. S'il était mort, s'il n'y avait pas de résurrection, pourquoi nous vivrions pour un mort? Aucune motivation, aucune vie. Mais il est ressuscité, il est vivant, et ainsi nous voulons vivre pour lui, même dans les relations avec les autres. Vous vous souvenez de ce que disait Paul? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est lorsque Christ vit en nous que nous sommes pleinement heureux et que nous faisons ce qui est bon et juste. C'est alors que nous nous repentons lorsque nous péchons en cherchant à réparer ce que nous avons détruit ici-bas, parce que cela manifeste la repentance réelle, tout en recevant avec joie le pardon de Dieu que nous ne pourrions pas payer. C'est ça quand Jésus-Christ vit en nous. Ce n'est pas que nous ne ferons plus de péché, nous sommes encore dans la chair ici-bas. Mais chaque fois que nous péchons, nous nous repentirons et nous chercherons à vivre pour Dieu. La résurrection, c'est passer de la mort à la vie. C'est passer de quelque chose qui n'existe pas à quelque chose qui existe. Écoutez bien, par rapport aux relations. La résurrection est l'espérance et la certitude de relations perdues qui sont retrouvées, de relations détruites qui sont reconstruites, de relations mortes qui reprennent vie. C'est ça la résurrection. Je reprends pour que ça nous imprègne vraiment. La résurrection, c'est l'espérance et la certitude de relations perdues qui sont retrouvées, de relations détruites qui sont reconstruites, de relations mortes qui reprennent vie. C'est ça la résurrection. C'est ce qui découle de la résurrection de Jésus-Christ. Le texte de 2 Corinthiens 5, 14 à 15 se place dans un contexte de réconciliation avec Dieu. La réconciliation, dans ce cas, c'est une relation morte avec Dieu qui a été rendue vivante par Christ. Et dans ce contexte de réconciliation avec Dieu, l'amour de Christ nous habite parce qu'il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas cet amour dans nos relations. Nous plaçons toutes nos attentes en Jésus parce qu'il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, nous aurions besoin de trouver tout ce dont nous avons besoin chez les autres et charger nos relations de ces attentes. Non, il est ressuscité, c'est en lui que nous plaçons notre espérance. Nous désirons le salut des autres parce que Jésus est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, on a dit avant, un mort ne peut sauver personne. Mais il est vivant, donc il peut sauver encore ceux qui sont autour de nous. Et nous vivons pour Jésus et il vit en nous parce qu'il est ressuscité. Question qui nous reste et qui est fondamentale. Es-tu réconcilié avec Dieu? Est-ce que ta relation avec le Créateur a été rendue vivante par Christ? Et comme l'apôtre Paul, je peux que vous dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et ainsi, la résurrection de Jésus-Christ prendra tout son sens pour vous et dans vos relations. Quand on est réconcilié avec Dieu, que la relation avec Dieu est passée de la mort à la vie, si vous voulez, eh bien à ce moment-là, la résurrection de Christ va prendre tout son sens dans votre relation avec les autres. Nous allons prier. Seigneur, quelle grâce de pouvoir nous présenter devant toi ce Dieu qui donne la vie. Et tu le montres premièrement par la résurrection de Jésus-Christ qui est vivant et qui agit puissamment. Seigneur, merci parce que lorsque nous venons à toi, lorsque nous nous repentons, que nous saisissons par la foi l'œuvre de Christ, son amour est placé dans nos cœurs. Oh Seigneur, permets que nous le vivions. Ne permets pas que nous le cachions. Ne permets pas que nous cherchions par nos propres forces à aimer ceux qui sont autour de nous, mais que nous sachions puiser dans cet amour que tu places dans tes enfants. Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons placer toute notre attente en Jésus-Christ, le vivant, parce qu'il est fidèle, jamais ne nous laissera. Il est celui qui peut combler tout ce dont nous avons besoin, parce qu'il en a la puissance et parce qu'il ne meurt jamais. Il est ressuscité pour l'éternité. Quelle grâce, Père. Aide-nous à ne pas charger ceux qui sont autour de nous de devoir nous répondre à tous nos besoins. Mais aide-nous, Seigneur, à nous réjouir que tu utilises aussi ceux qui sont autour de nous pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous reprendre, pour nous exhorter, tout en sachant que cela vient en fait de toi. Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons désirer le salut pour les autres, parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est vivant Et c'est cela notre motivation à annoncer autour de nous que tu sauves encore aujourd'hui. Parce que tu es autant vivant qu'il y a 2000 ans. Quelle grâce. Sois loué, sois béni. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions vraiment saisir la compréhension de ce que signifie que tu vis en nous, aussi dans nos relations. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher notre propre royaume ou chercher même le royaume de l'autre, mais que nous cherchions ton royaume ensemble. Et qu'ainsi nous puissions être dans la joie et la paix de regarder dans la même direction. Cette direction de la gloire en Christ. Oh Seigneur, veuille bénir chacun ici présent et que nous puissions, que nous soyons des enfants qui sommes en train d'apprendre à te connaître, que nous soyons des adultes en ayant déjà une longue expérience de vie chrétienne et que chacun nous puissions nous réjouir de ton œuvre et de ta résurrection. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.